Du vent dans les pages avec Chloé.
Le vieux port, s'il vous plaît.
Du vent dans les pages, à l'assaut de la littérature.
Par la fenêtre du taxi, Marseille défile. Du monde, beaucoup de monde. Je devine des conversations dans une ville où parler est une activité à plein temps. Les accents m'arrivent des terrasses de café. Grimpe des escaliers, remonte le temps, se pose au Fort Saint-Jean, emprunte la passerelle du Mucem, flâne dans le quartier de la Plaine, où les graphes ornent les murs comme des tatouages à ciel ouvert. Les Marseillais siestent, convoquent de l'imprévu, s'offrent un détour par le quartier du Panier. Des plantes plein les rues, des cages à canaries suspendues aux fenêtres, vues sur la Vieille Charité, sur la mer, sur la Major, en face à face avec le regard de la bonne mère. Elle, là-haut, tout en or, le blanc du ventre des goélands, le bleu en ligne de mire. Le taxi prend à droite, à gauche, dépasse les couleurs de Noailles, bifurque par-ci, par-là, et m'emmène au vieux port.
Du vent dans les pages. Aujourd'hui, rencontre avec l'écrivain Olivier Bourdeau.
Aujourd'hui, on a rendez-vous avec l'écrivain Olivier Bourdeau. Le rendez-vous est pris au Café de la Caravelle. C'est l'un des plus vieux cafés de Marseille. Le balcon sur le vieux port, le nez sur la foule du peuple des bateaux. Un café qui sent les embruns et le soleil par-dessus. Olivier Bourdeau, c'est le coup d'éclat direct. Un premier roman best-seller, En attendant Beau Jungles, aux éditions Finitude. Rappelez-vous. Un bouquin que l'on a tous commencé par se refiler sous le manteau. C'était le roman qui redonnait envie de lire. Une histoire d'amour fou passée au vernis de la Belle Époque. Un livre succès et un film récemment sorti sur les écrans avec dans les rôles-titres Romain Duris et Virginie Efira. Vous l'avez lu? Vous l'avez vu? Vous y êtes? Olivier Bourdeau présente son troisième roman Florida, toujours chez Finitude. D'ici là, je règle ma montre à l'heure marseillaise. J'ai le temps, je le prends, et je suis plutôt en avance. Voilà, donc je ne sais pas si Olivier peut... D'accord, ça marche? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, on est en avance, on vient d'arriver, il fait un soleil radieux, donc on est prêt, quoi. Oui, c'est ça. Ok, entendu. Merci, à tout de suite.
Autorisez une cigarette? Vous fumez?
C'est ça.
Bon bah, autorisons-nous une cigarette.
Très bien.
Ça vous dérange pas?
Ouais, parfait. On y va.
Ravi de vous rencontrer.
Olivier Bourdeau nous arrive lunettes de soleil, franges longues, bouc et moustaches fines, montre au poignet droit parce qu'il est gaucher, Olivier. chemise bleu marine, jean, chaussures italiennes. On commence par fumer sur un bout de balcon surplombant le vieux port. On fait connaissance avant de s'attabler à l'intérieur, de commander des cafés et d'entamer la conversation. Il replace derrière l'oreille une mèche de son élégance, réfléchit en un éclair et épaissit encore sa sincérité. Sous son regard bleu, il a le goût de gommer les distances. Alors avant d'ouvrir le micro, je vous donne le fil des trois romans d'Olivier Bourdeau. Trois ouvrages très différents, avec une préférence pour le vacillement et les dommages collatéraux. De roman en roman, la familière étrangeté de ces personnages nous devient une seconde peau. Le premier, En attendant Bojangles, est un coup de maître. C'est en deux mots et pour faire court, une histoire d'amour dans l'esprit de Scott et Zelda Fitzgerald, très petit déjeuner chez Tiffany, Truman Capote et tout ça. Une fulgurance écrite à coup de 7 heures par jour pendant 7 semaines. Une valse lente et poétique, avec le sens de la fête, du baroque et de la démesure borderline qui le fera surnommer le prince des lettres. Pactum Salis est le deuxième roman. Il se passe au cœur des marais salants. L'histoire de l'amitié fascinée de deux hommes que tout sépare. Jean, ex-parisien devenu paludier, un misanthrope à la vie monacale, et Michel, agent immobilier qui traîne sa Porsche et sa frime, du côté des filles, des boîtes ou les deux. Comme toujours chez Olivier Bourdeau, la langue y est très belle et l'humour cerne à merveille les deux, trois regards mordants que ces personnages ont sur notre société. Du loufoque, des envolées, du cynisme et un univers très différent du premier roman. Et enfin, le troisième opus qui vient de paraître, Florida, c'est le titre. Un roman qui avait maturé dans l'esprit du romancier durant 7 ans et qui fut écrit dans une sorte de fièvre en 3 mois. Ça sort, ça sonne définitif, trash, péchu, sans ranger une seule fois le paquet de clopes dans la poche arrière. Alors forcément, nous lecteurs sommes férocement tenus en haleine par ce conte cruel qui n'en finit pas de mal finir.
Du vent dans les pages, la littérature, langue d'émotion.
Un bon roman est un roman dont chaque page donne envie de tourner la suivante. Florida ne nous lâche pas. Olivier Bourdeau est le funambule qui a écrit cette assaise au lance-flamme de sa plume, avec un style acéré et vécu de l'intérieur au féminin et à la première personne. C'est la voix et c'est l'histoire d'une petite américaine, californienne et brillante, Elisabeth. Le jour de ses 7 ans, elle reçoit la robe qui lui permet de non seulement participer à un concours de Minimis, mais surtout de gagner. La victoire est alors comme une tragédie. C'est l'histoire de cette malédiction et du dérapage qui s'ensuit. On piste la jubilatoire vengeance qui est le seul choix qu'il reste à Elisabeth quand de tout elle a été dessaisie. De l'enfance, de ses chances, de ses rencontres. Elle grandit et fait de sa propre vie la place centrale au gâchis. Le cynisme pour arme, la rage et la vie se confondent, le combat est permanent, la mère devient l'ennemi et son propre corps l'instrument de l'auto-sabotage. La haine vieillit mal. La violence du monde, elle s'en amuse, Elisabeth, s'en arrange, et puis non finalement. Elle ne s'en amuse ni ne s'en arrange plus du tout. À trop apprendre à marcher sur les lignes de faille, on finit par ne plus savoir marcher du tout. La vie prend dans ses bras ceux qui chuchotent. Elisabeth, elle, parle mal ou crie. La chute vient aussi de ce qu'il n'y avait personne pour la rattraper. Pas même elle-même. Elle finit par survoler le monde. De là où elle est, Elisabeth est inatteignable. Florida, le troisième roman d'Olivier Bourdeau, est à lire maintenant. On ferme les pages, on pose les livres et on s'assied avec l'auteur. Les cafés vont arriver, on entame la rencontre et la conversation.
Du vent dans les pages, aujourd'hui rencontre avec l'écrivain Olivier Bourdeau.
Olivier Bourdeau, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors l'idée, c'est peut-être de partir, tu vois, de la notion de l'enfance dans tes romans. Pas forcément que dans Florida. Moi, j'ai remarqué qu'il y a toujours ce point de vue de l'enfant qui prévaut un peu. Ce point de vue de l'enfance, ça dit quelque chose d'important pour toi ?
Ah ben, je pense que ça dit quelque chose d'important pour tout le monde. En réalité, je ne suis ni philosophe...
Le normal, c'est Olivier.
Merci.
Café. Et des 30 heures de café. Ouais, génial, merci.
Ni philosophe, ni intellectuel, mais c'est une banalité que de le dire. On est le produit de son enfance, et par conséquent, la mienne ayant été particulière, comme beaucoup d'enfance, mais enfin... c'est quelque chose, mais en fait, ça vient naturellement... Beau Jungle, c'était assez inné, l'écriture, absolument pas préméditée. Par conséquent, je me suis mis dans la peau d'un enfant sans savoir vraiment si ça allait fonctionner. J'ai attendu 3 ans avant de savoir si ça fonctionnait, parce que mon éditeur... j'ai eu un avis positif d'un éditeur 3 ans après l'avoir écrit. Et a priori, ça fonctionnait, puisque le livre n'a pas trop mal marché, donc c'était une bonne nouvelle. Mais je n'ai pas... c'est venu spontanément, je n'avais pas réfléchi. Là, en l'occurrence avec Florida... Je savais, ça faisait 7 ans que j'avais cette idée en tête, je savais que je me mettrais à la place d'une jeune fille. Pourquoi ? Je n'ai évidemment pas été minimis dans mon enfance, je ne suis pas né en Floride. Mais il suffit de pincer certaines cordes pour retrouver des sentiments voisins. En l'occurrence, la frustration, l'humiliation, qui sont des mamelles magnifiques pour un futur écrivain. Humiliez vos enfants, frustrez-les, et vous aurez peut-être un jour l'occasion de les voir dans les librairies.
Et de toute façon, il y a aussi... Bon, là, tu as ouvert énormément de choses, Olivier. Je ne sais pas si tu en as conscience, mais on y reviendra. Mais il y a cette notion aussi dans le point de vue de l'enfant, du réel dont tu parles. Et ce réel, il est important dans tes descriptions. C'est quelque chose où on voit qu'il y a une grande précision. Alors, tu disais que Beau Jungle, c'était peut-être venu d'une façon plus... comme une invitation pour toi, alors que Florida, c'est un travail quand même, c'est quelque chose qui t'a habité cette année, etc. Mais dans le côté descriptif, tu as besoin de vraiment d'être habité par des visions puisées dans le réel, que tu vas sur place aux États-Unis, tu as été sur place en Espagne aussi.
Tu es bien enseigné. Alors, dans Beau Jungle, je n'arrive pas à le voir, franchement, il y a... Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de descriptions. En réalité, elles sont assez simples. Et puis en plus, ça découle d'une absence totale d'imagination, puisque j'ai décrit ce que j'avais sous les yeux. Et je l'ai imagé. Enfin, j'ai pas le sentiment que les descriptions soient dingues. Elles sont simples, et c'est peut-être pour ça que les gens se les approprient assez facilement. Pour la Floride, effectivement. Ouais, je suis allé... Alors, n'y voyez aucune pingrerie, mais j'ai profité de mon voyage de noces pour m'enfuir aux États-Unis avec mon épouse. Elle a de la famille à Boston. Et puis, je ne l'ai pas enfermée dans la chambre pendant que je réfléchissais à mon texte. Mais j'ai toujours besoin de connaître les endroits dont je parle. Je ne sais pas si ça se voit, je ne sais pas si ça se sent. En tout cas, moi, ça me rassure et j'ai le sentiment... Je ne sais pas si c'est une question de légitimité, mais enfin, humer, saisir des détails, des petites choses qui font qu'une mosaïque derrière. J'ai pas l'impression de sauter en parachute, sans parachute justement. Et je ne pense pas, encore une fois, avoir mis tant de choses que ça dans Florida, mais bon, il y a un arrière-plan qui me semble confortable en tout cas, et donc. C'est pas absurde d'être dans un cadre confortable pour écrire, ouais.
Bon Olivier, on fait un petit break, on se fait une pause musicale.
He was just an American dream.
Avec l'écrivain Olivier Bourdeau.
C'est ce que j'allais dire, il y a une forme quand même d'avoir un besoin dans ton écriture, en tous les cas de réassurance, c'est une chose, mais aussi comme quelque chose de... Oui, de ne pas être dans l'imposture, il y a quand même peut-être ce
besoin... L'imposture, je n'y échappe jamais.
Voilà, hein. C'est ça.
Je suis un imposteur depuis le 3 juillet 4h.
Mais on sent que ça c'est quelque chose qui t'est cher et c'est...
L'imposture, oui, c'est une passion.
Mais pour le coup, c'est... tout artiste est comme ça.
Oui,
de
voilà.
Toute façon, tout écrivain.
Peut-être, certainement.
Mais de se retranscrire, en fait...
Mais comme je suis parfaitement égoïste, les autres, je m'en fous. Je m'en cogne royalement, c'est pas avec eux que j'écris, c'est avec moi. Oui, évidemment, je pense que tout le monde se sent illégitime. J'ai rencontré une auteure charmante qui a eu du succès avec un roman assez puissant. Je ne dirai pas son nom, mais elle m'a envoyé un texto. C'était son premier roman, elle faisait toute autre chose auparavant, en disant qu'elle se sentait dégoûtée de son statut, de ce qu'elle était, de son imposture. Alors moi, je n'ai pas été jusqu'à là, hein. Étant donné que c'est quelque chose d'inné chez moi, l'imposture, je ne me suis jamais senti à ma place, ça ne change pas grand-chose. Je suis un imposteur public désormais, alors qu'auparavant, j'étais un imposteur privé. Voilà... il faut l'assumer, je pense.
D'un roman à l'autre, tu as besoin d'avoir un grand changement, d'apporter quelque chose de complètement nouveau. C'est ce que tu as voulu faire, t'en avais conscience ou absolument pas. Les personnages se sont invités à toi, bon, pour le documentaire, on le sait.
Oui, tu es bien renseigné. Non, c'est vraiment pas une... Je me lance pas de défi en disant je vais changer radicalement. Je pense que le... Alors là, ça fait vraiment théorie d'un télo à de Francis Sou, mais le thème impose le style, décide du style. Bojangles, c'est un sujet grave, la folie, qui est traité avec légèreté, poésie, élégance. Et voilà, traiter d'un sujet grave avec légèreté, ça me plaisait. La fantaisie devait s'accompagner de poésie, la poésie ce sont des rimes, voilà, tout ça est venu assez naturellement. J'avais déjà un fond sonore, le même son que nous avons là, un son de jazz, voilà. Alors que pour Pactum Sali, c'était un métier que j'avais fait, que j'avais beaucoup aimé, même si j'étais médiocre dans sa réalisation. C'est d'ailleurs le second métier que j'ai préféré dans toute ma vie. La pratique est rugueuse. Le cadre est magnifique, somptueux, poétique et aussi un peu rugueux. Et donc, voilà, c'est le thème à choisir. Et en ce qui concerne Florida, bah écoutez, c'est simple. Ce sont deux mondes sordides. Dans un décor en carton-pâte, il s'agit d'un carnet intime dans lequel on crache ce qu'on a sur le cœur, dans le corps, dans la tête, et donc ça ne pouvait être que comme ça. J'ai bien compris le désarroi de beaucoup de mes lecteurs qui disaient mais c'est ordurier, c'est mal écrit. Je veux bien, mais Elisabeth naît dans les années 90 à Miami, dans un milieu populaire, et elle ne pouvait pas écrire comme François Sagan, c'est impossible. Si elle s'était levée en disant je suis baignée d'une douce mélancolie, où va me mener mon âme aujourd'hui, on aurait trouvé ça grotesque. Alors je suis navré de décevoir les gens, tous mes romans ne sont pas poétiques. Car il n'y a aucune poésie dans les concours de Minimis, même si Little Miss Sunshine a réussi à rendre ça sympathique, la réalité est sordide, il suffit de regarder un documentaire pour... voilà.
Alors moi j'ai deux questions qui me viennent évidemment. La première, c'est, tu sais, tu parlais de poésie justement, et ou de l'absence de poésie, quoique, ça c'est à voir. En tous les cas, je sors d'interviews avec des poètes justement, et il en ressort toujours un peu cette idée, tu sais, que les crises, il faille appuyer dessus pour qu'elles s'ouvrent, et que c'est ça en fait la poésie, c'est un peu le craquellement derrière, si tu veux, la surface assez calme des apparences. Et ça, c'est quand même quelque chose qui t'est cher aussi. Et finalement, donc, tu vois, la poésie, elle est partout dans ton écriture.
Alors, si on s'en tient à cette définition qui est très belle, je félicite la personne qui l'a formulée. Oui. Enfin, la poésie peut être partout. Ce que je veux dire par là, la poésie, là où certains de mes lecteurs la placent, ce sont les rimes, c'est la beauté des mots, etc. Enfin, oui, il peut évidemment. Il y a de la poésie partout. Enfin, il suffit de la trouver. C'est une question d'incarnation, il me semble. Voilà. Ceux qui ont aimé la poésie de Bojangles ont été désarçonnés par la poésie craquelée de Florida, voilà.
Et pourtant, il y a une grande figure qui suit un peu ton écriture, enfin, ça fait trois romans en tous les cas, que c'est le cas. C'est comme un immense chant, quelque chose d'une tension toujours, et finalement, c'est un peu, tu sais, comme une tragédie grecque, finalement. T'as toujours quelque chose qui est d'un désarroi voulu ou pas, avec une sorte de fatalité, ouais, tu vois, il n'y a pas de rédemption finalement.
Oui, je pense que c'est une question de nature. C'est tout simplement, c'est une question. Tout ça vient de l'enfance et c'est une manière de traiter la vie. Mmh. Voilà.
Et quand tu choisis,
c'est magnifique ce que je viens de dire. Faut commencer par ça, je pense.
Reprendre des capsules.
Là, les gens vont couper. Ah ouais, punaise, il est chiant à mourir ce type. Quel lieu commun.
Du vent dans les pages. Olivier Bourdeau. Et musique.
see blue skies. The day is clear and bright, but it might as well be cold outside. And sometimes behind a pretty smile, there is just another helpless cry. Now a September melody is slowly coming down on me, and it's taking me through the day. While I'm whistling my tune, I remember days of June when everything still seemed to be okay. There's a voice inside my head saying there's no reason to be sad, and I'm not even mad at you, no. But I don't wanna talk about it, I just wanna walk away from all the things we used to do. And it ain't the way that I had wanted it to be, but if anyone should hold you back, I swear it won't be me. No, if anyone should hold you back, I swear it won't be. Well, sometimes I reminisce, thinking about the way you used to kiss me in the morning before you left my bed. Oh, but the days run by so fast that soon the memories of the past, there will be nothing but a whisper in my head. Sad and lonely rainy days make me wish you'd come back and stay. Forget the past and leave it all behind. Oh, but leaves are falling, seasons change, I will have to rearrange. Forget you and let you out of my mind. There's a voice inside my head saying there's no reason to be sad, and I'm not even mad at you, no. You said goodbye and walked away, why would I try to make you stay? You know there's really nothing, nothing I can do. And it ain't no way that I had wanted it to be, but if anyone should hold you back, I swear it won't be me. No, if anyone should hold you back, I swear it won't be me. No, no, if anyone should hold you back, I swear it won't be.
Du vent dans les pages, sous le soleil des écrivains.
Just an old-fashioned kiss, it gets me hot even in winter. How can I resist? Oh, how you tease me. A simple kiss upon my cheek, it makes my knees a little weaker. Your lips are like a spring morning dew on a red rose. Kiss me quick, kiss me hard, make it slow, make it sound, cheek to cheek. Smooch me up in the taxi, and those lingering hugs, you got me in paradise, and I'm feeling alive.
just as long as you keep me close.
Du vent dans les pages. Aujourd'hui, rencontre avec Olivier Bourdeau.
Tu sais, il y a ce truc aussi, de moi qui m'étonne, c'est comment tu as réussi à écrire ton second roman. Bon, bien sûr, avec des choses qui te sont pas inconnues, mais tu es toujours dans cette restitution des sensations et émotions qui passent par toi, un réel que tu connais, mais qui est transcendé par toi, ok. Mais n'empêche que pendant 7 ans, tu es habité par un personnage qui s'appelle Elisabeth, qui est un personnage absolument fort, qui emporte tout. Et pour autant, tu as réussi à écrire un deuxième roman. Comment on fait ça?
Tout simplement parce que nous revenons à la question précédente, c'est que je n'avais absolument pas les moyens de me rendre en Floride et que j'avais déjà c'était un roman avec 4 personnages qui se croisaient et qui devaient se retrouver tous dans un même immeuble en Floride et j'avais besoin d'aller aux États-Unis pour ça et je n'avais pas un centime. Voilà, donc tant que je n'avais pas les moyens d'y aller, ce livre ne pouvait pas exister. Et justement, mais c'est une très bonne question, c'est-à-dire que j'avais cette idée que j'ai dû mettre de côté, et je me suis dit, n'ayant pas les moyens de voyager au-delà de mon département, il va falloir que je me serve de choses que je connaisse déjà pour pouvoir me remettre au travail assez vite. Et en l'occurrence, 2 milliers que je connaissais très bien pour y avoir très mal réussi, l'immobilier, où j'étais d'une médiocrité absolue, et les marais salants. Et donc j'avais un casting, un portfolio de personnages dans les deux métiers. J'avais les paysages pour les marais salants, j'avais les odeurs. C'est un métier qui n'est pas fait pour la contemplation, mais c'est peut-être pour ça que j'ai absolument gagné aucun centime. C'est que moi, je passais mon temps à regarder au-dessus de moi, et donc j'avais déjà tout en tête. Et je n'avais même pas, je ne suis pas retourné dans les marais salants pendant l'écriture, puisque j'y ai passé 4 mois, que j'avais tout, les 2 clochers qui se répondent, j'y ai réfléchi pendant, parce que c'est le cas, il sonne la même heure à 1 minute d'intervalle, donc 7 minutes n'existe pas entre Bas-sur-Mer, enfin c'est assez incroyable. Au début, je le constate, et puis ensuite, tous les jours, je me sentais obligé de m'arrêter en me disant « cette minute n'existe pas ». Enfin, je trouvais ça sympa. En plus, j'étais tout seul, perdu, avec les sternes, les aigrettes Garzetta. Et donc, voilà, c'est des choses. J'avais déjà tout. J'avais les personnages dans l'immobilier, qui sont des caricatures d'eux-mêmes. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que j'étais vexé qu'on me dise que mes personnages étaient des caricatures, mais tout le monde est plus ou moins une caricature en réalité. Donc ça devrait me faire plaisir, mais bon, c'est rarement un compliment. Dans l'immobilier, vous allez dans un bar à côté d'une agence immobilière, vous les décelez, ils ont des chaussures pointues, des chemises violettes, voilà, on le voit. Soit ils sont conseillers bancaires au LCL, soit ils travaillent chez Stéphane Plaza, quoi. Et donc, si je dis vous êtes agent immobilier, personne ne peut m'accuser de faire de la caricature. Voilà, c'est comme un banquier, 90% des banquiers se ressemblent. Je suis navré. Et d'ailleurs, quand on regarde dans les films de Scorsese, les banquiers sont tous gros, avec les cheveux en arrière et un cigare. C'est la moindre des choses pour être banquier. Mais si je le décris dans mon bouquin, il y aura toujours un lecteur pour dire quelle caricature.
Ouais, peu importe.
Je vous invite à venir fréquenter mon banquier.
Il y a, en tous les cas, tu as brossé un tableau, de toute façon, du marchand de biens là, dont tu parles. Il y a ce côté sans scrupule absolument. Ouais. Pour le thème de la réussite. Et le thème de la réussite, bon, ben là, on le retrouve aussi dans Florida, différemment, complètement différemment. On met le report de la mer, d'accord, mais de toute façon, c'est une histoire de masque terrible, sans scrupule absolument.
J'ai travaillé pour un marchand de biens, j'en ai fréquenté pendant des années. Il y en a qui font un travail honnête, honorable. Je veux dire, quand il y a un immeuble à vendre ici, aucun particulier ne peut l'acheter. Donc, le marchand de biens achète l'immeuble et puis il revend à la découpe. Voilà, il n'exproprie personne. En revanche, je me suis retrouvé dans des situations où je faisais des... J'étais le porte-parole, en quelque sorte, de ce marchand de biens. Je faisais des offres insolentes, indécentes, à foutre la nausée à des vieux à qui on a envie de glisser le conseil de faire ce que nous allons faire ensuite et qu'il pourrait faire. Alors bon, évidemment, il faut avoir une expertise technique, juridique, tout ça. Mais certains vendent des baraques à 200 alors qu'ils pourraient les revendre 400 eux-mêmes s'ils avaient... voilà. Et donc on se retrouve... Moi, je l'ai fait une fois. Heureusement, le type l'a refusé, mais je suis sorti... Parce qu'il y a aussi ça, moi j'avais besoin de gagner ma vie, donc le type me donne une... Il dit va voir un tel, tu lui fais une offre à tel prix, mais le vieux était... C'est quasiment la scène que je raconte dans Pactum Sali, c'est abominable. C'est ouais, on en vient à rêver qu'il refuse, et heureusement il a refusé, mais on se dit, mon pauvre vieux, vous êtes assis sur un paquet de pognon, quoi, ne pleurnichez pas. Je l'ai pas dit, parce que je suis quelqu'un de lâche.
Singing la 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 sun is out, so come and get a glimpse. It's here for all of us, so come and warm your skin. You're on the ninth street, soon we'll be back on track. The knock knock for Ruben, come and kill some time on the heron crack. Busy bee watching the world, seeing all the boys and the girls. You're busy bee, haven't you heard? Yeah. This is how it feels when a good day comes along. Oh, this is how it feels when a good day comes along. Oh, this is how it feels when a good day comes along. Yeah, this is how it feels. This is how it feels.
Dans les pages, aujourd'hui rencontre avec l'écrivain Olivier Bourdeau.
Heureusement qu'il y a ce côté sans scrupule que, bon, qui n'est pas forcément
ta peau à toi. Heureusement, c'est un très bon personnage de roman.
Oui, mais ça fait du coup un très bon écrivain, parce que si tu t'étais arrêté à ce métier-là, on ne serait pas là aujourd'hui autour d'un café et dans un café.
Oui, heureusement que j'ai échoué dans tous les domaines que j'ai entrepris jusqu'à l'âge de 36 ans. Ouais, c'est une bénédiction. Il faut avoir des amis qui le supportent, mais...
Vas-y, à quel moment tu t'es senti... moi maintenant, c'est écrivain ou pas, quoi?
C'est assez compliqué, parce que la première fois que j'ai tenté d'écrire un roman, c'était consternant. Je devais avoir 17 ans. Nous n'avions pas de télé, mais un ordinateur vieillot venait d'arriver. J'étais dans une robe de chambre immonde, verte.
C'est ça, en fait.
En fait, j'ai passé toute ma jeunesse à lire énormément. Pas de télé, interdiction de sortir de ma chambre tout le temps, les week-ends et tout ça, etc. Donc j'ai été cloîtré. Et ce qui était une malédiction à l'époque est devenu une bénédiction. En réalité, si j'avais une télé, je ne serais pas là, parce que je n'aurais pas lu. Ou bien moins. Si j'avais eu le droit de sortir, mais j'aurais fait comme tous mes amis. Alors que là, la solitude, l'enfermement, pendant 10 ans, ça a créé ce que je suis. Voilà. Donc je remercie toutes ces punitions. Ça peut sembler bizarre, mais je suis le fruit de ça, en réalité. Ouais. Voilà. Mes frères et sœurs n'ont pas vécu du tout la même chose. Ils n'avaient pas de télé, mais ils sortaient tout le temps. Ils ne sont pas écrivains. Enfin, je veux dire, j'ai regardé son plafond en fumant des cigarettes pendant des heures. Ça développe son imagination. Voilà. Il y a plein de sentiments qui vous traversent quand vous regardez votre plafond. Donc je dois tout à cette situation. Très honnêtement, je revivrais ça pour rien au monde. Mais je suis très heureux de l'avoir vécu. En fait, je ne regrette rien. Mais si une baguette magique, si une fée, une abominable fée, me proposait de me redéposer dans ma chambre d'enfant à 5 ans, j'ouvre la fenêtre et je saute. Je ne revivrais pas ça pour rien au monde. 15 ans, non, ça va. Mais ça va, c'est terminé. Maintenant, c'est la plus belle partie, c'est cool. Mais à partir du moment où je me suis échappé de chez moi, enfui, la vie était belle, quoi. La notion de liberté qui disparaît un peu, certains vocabulaires de l'époque, je trouve. Moi, je l'ai vécu pour de vrai. Je n'étais pas en prison, mais enfin, quand je me suis barré la première fois, j'ai couru dans la rue, et voilà. Il y a quand même un truc. C'est peut-être pour ça que j'ai fait n'importe quoi pendant des années. C'est que tout d'un coup, je me disais, mais j'ai quand même passé un an à me dire, mais merde, personne ne me demande de rentrer. Et donc, je ne rentrais jamais. C'est primordial. Il m'arrive de me dire, mais je suis parfaitement libre. Ça, c'est cool. Ouais.
Et cette liberté.
C'est un peu grotesque comme raisonnement, mais je vous assure que ça vient d'un truc. C'est vécu.
Et ouais. Cette liberté aussi, de toute façon, c'est comme si c'était un temps de latence où tu as emmagasiné tout ça. Et là, les trois romans, finalement, ils nous restituent, en fait. Tu parlais d'imagination, ton imagination, d'accord, les sensations, émotions qui t'ont traversé, les lieux que tu connais, les caricatures qui n'en sont pas, qui sont pour le coup extrêmement réelles.
Mais moi, je suis une caricature d'accord. d'écrivain, peut-être.
Ouais,
j'en sais
non.
rien.
Après peut-être. Tout, j'allais te poser exactement cette question. Un écrivain, c'est de toute façon ça. Après... chacun est complètement différent, mais ton style l'est aussi. Tu as un style très particulier de toute façon. Et dans les lectures, quand tu regardais ton plafond, est-ce qu'il y avait beaucoup d'écrivains américains ou tu étais influencé par qui, toi, particulièrement ?
En réalité, j'ai non mais ouais. J'ai d'ailleurs arrêté de lire intensément quand j'ai commencé à profiter de ma liberté. C'est-à-dire que quand j'étais chez moi, je devais lire 80 ou 100 livres par an. Ouais. J'étais en pension. Je lisais 2 livres par semaine quand j'étais en pension. Et ensuite, quand j'étais libre, j'ai dû passer à 30 livres par an, 20. J'avais autre chose à faire en réalité, voilà. Et là, depuis un an et demi, je me suis remis intensément. J'avais vraiment peur que ça m'arrive plus. C'est vraiment un réflexe et ça peut décomplexer les gens qui ne lisent pas. Ça arrive même aux gens qui écrivent des romans de pas assez lire ou de voilà. On est tellement sollicité partout. C'est un confort, une lâcheté, une paresse totale de se foutre sur son canapé et de regarder des séries. C'est-à-dire, ça ne demande pas d'effort et ça fait 3 mois que je vais me coucher avec un livre, ce qui m'était pas arrivé depuis très longtemps. Et au bout de 3 jours, on se dit mais pourquoi j'ai arrêté quoi. Ça revient assez vite, mais il faut avoir le voilà. C'est tellement facile de s'endormir sur son écran et de claquer le clapet. Je réponds pas à vos questions là, hein. Pas trop aussi.
Du vent dans les pages, Olivier Bourdeau.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high tone places. Liz Taylor's not his style, and even Lana Turner's smile is something he can't see. My baby don't care, oh no.
On va se quitter un moment. On se retrouvera dans la prochaine émission du Vent dans les pages, qui te sera également consacrée. On finira cette conversation alors ici, au Café de la Caravelle. Et puis on partira, je te propose, déambuler ensemble dans les rues de Marseille. On a déjà hâte en fait, de te retrouver. On te remercie pour cet échange. Et puis avant de se quitter, je voudrais savoir si tu serais d'accord pour que je lise un passage de ton roman En attendant Beau Jungle.
Ouais. Merci infiniment.
Merci à toi, Olivier. À bientôt.
Du vent dans les pages, littérature.
elle, mon père disait qu'elle tutoyait les étoiles. Ce qui me semblait étrange car elle vouvoyait tout le monde, y compris moi. Ma mère vouvoyait également la demoiselle de Numidie, cet oiseau élégant et étonnant qui vivait dans notre appartement et promenait en ondulant son long cou noir, ses houppettes blanches et ses yeux rouges violents depuis que mes parents l'avaient ramené d'un voyage, je ne sais où, de leur vie d'avant. Nous l'appelions Mademoiselle Superfétatoire, car elle ne servait à rien, sauf à crier très fort sans raison, faire des pyramides rondes sur le parquet, ou à venir me réveiller la nuit en tapant à la porte de ma chambre, de son bec orange et vert olive. Mademoiselle était comme les histoires de mon père, elle dormait debout, avec la tête cachée sous son aile. Enfant, j'ai souvent essayé de l'imiter, mais c'était rudement compliqué. Mademoiselle adorait quand maman lisait allongée sur le canapé et qu'elle lui caressait la tête pendant des heures. Mademoiselle aimait la lecture, comme tous les oiseaux savants. Un jour, ma mère avait souhaité emmener Mademoiselle Superfétatoire en ville pour des courses. Pour cela, elle lui avait confectionné une belle laisse en perles. Mais Mademoiselle avait eu peur des gens et les gens avaient eu peur de Mademoiselle, qui criait comme jamais. Une vieille dame à Tekel lui avait même dit que c'était inhumain et dangereux de promener un oiseau en laisse sur le trottoir. Des poils, des plumes, quelle différence! Mademoiselle n'a jamais mordu qui que ce soit et je la trouve bien plus élégante que votre pâté à poils. Venez, mademoiselle, rentrons chez nous. Ces individus sont vraiment trop communs et grossiers. Elle était rentrée à l'appartement fortement remontée. Et lorsqu'elle était dans cet état-là, elle allait voir mon père pour tout lui raconter dans le détail. Et comme à chaque fois, ce n'était qu'après avoir terminé qu'elle redevenait guillerette. Elle s'énervait souvent, mais jamais longtemps. La voix de mon père était pour elle un bon calmant. Le reste du temps, elle s'extasiait sur tout, trouvait follement divertissant l'avancement du monde et l'accompagnait en sautillant gaiement. Elle ne me traitait ni en adulte, ni en enfant, mais plutôt comme un personnage de roman. Un roman qu'elle aimait beaucoup et tendrement, et dans lequel elle se plongeait à chaque instant. Elle ne voulait entendre parler ni de tracas, ni de tristesse. Quand la réalité est banale et triste, inventez-moi une belle histoire. Vous mentez si bien, ce serait dommage de nous en priver. Alors je lui racontais ma journée imaginaire, et elle tapait frénétiquement dans ses mains en gloussant. Quelle journée, mon enfant chéri, quelle journée, je suis bien contente pour vous. Vous avez dû bien vous amuser. Puis elle me couvrait de baisers. Elle me picorait, disait-elle. J'aimais beaucoup me faire picorer par elle. Chaque matin, après avoir reçu son prénom quotidien, elle me confiait un de ses gants en velours fraîchement parfumé pour que toute la journée, sa main puisse me guider. Certains traits de son visage portaient les nuances de son comportement enfantin, de belles joues pleines et des yeux verts pétillants d'étourderie. Les barrettes nacrées et bigarrées qu'elle mettait, sans cohérence particulière, pour dompter sa chevelure léonine, lui conférait une insolence mutine d'étudiante attardée. Mais ses lèvres charnues, rouge carmin, retenant miraculeusement suspendues de fines cigarettes blanches, et ses longs cils, jaugeant la vie, démontraient à l'observateur qu'elle avait grandi. Ses tenues légèrement extravagantes et extrêmement élégantes, du moins quelque chose dans leur assemblage, prouvait au regard scrutateur qu'elle avait vécu, qu'elle avait son âge. Ainsi écrivait mon père dans son carnet secret que j'ai lu plus tard, après. Si ça n'avait pas de queue, ça avait quand même une tête, et pas n'importe laquelle. Mes parents dansaient tout le temps, partout, avec leur ami la nuit, tous les deux, le matin et l'après-midi. Parfois, je dansais avec eux. Ils dansaient avec des façons vraiment incroyables. Ils bousculaient tout sur leur passage. Mon père lâchait ma mère dans l'atmosphère, la rattrapait par les ongles après une pirouette, parfois deux, même trois. Il la balançait entre ses jambes, la faisait voler autour de lui comme une girouette, et quand il la lâchait complètement sans faire exprès, maman se retrouvait les fesses par terre et sa robe autour comme une tasse sur une soucoupe. Toujours quand il dansait, Il se préparait des cocktails fous, avec des ombrelles, des olives, des cuillères et des collections de bouteilles. Sur la commode du salon, devant un immense cliché noir et blanc de maman sautant dans une piscine en tenue de soirée, se trouvait un beau et vieux tourne-disque, sur lequel passait toujours le même vinyle de Nina Simone et la même chanson, Mr. Bojangles.
Attendez, Camille.
Vous êtes venu récupérer votre taco, ben allez chercher les clés dans la boutique, moi je peux plus y retourner.
Attendez, ce qui est à moi est à vous. Nous sommes mariés sous le régime de la communauté, je vous rappelle. Vous courez-vous comme ça? J'ai jamais ressenti quoi que ce soit pareil.
C'est ce qu'on croit toujours au début, mais dans deux jours, vous ne pourrez plus me voir en peinture. Parce que j'ai des lubies, figurez-vous. J'ai horreur du quotidien, je m'ennuie très facilement, je suis très capricieuse, toujours en retard, d'une jalousie maladie,
oh là là.
C'est bon.
Attendez, vous n'avez pas le monopole du désastre, hein. Moi, je suis un coureur, un panier percé. Je mens comme un arracheur dedans. Vous verrez, je suis la mauvaise foi personnifiée.
Bravo, vous êtes une crapule, très bien. N'empêche, c'est moi la championne des causes perdues. Parce que je suis constamment heureuse ou triste, jamais tranquille.
Alors, vous devez être bien plus triste que la majorité des gens, d'accord, mais bien plus heureuse aussi.
Vous avez déjà dit que vous aviez la voix la plus réconfortante du monde, c'est pas du jeu.
Vous savez quoi? Je n'étais jamais tombé amoureux avant de vous rencontrer. Vous pouvez pas me priver d'une expérience si délicieuse. Vous êtes la femme de ma vie.
Il ne pousse pas la femme de sa vie, ça saurait.
Rassurez-vous, l'homme de la vôtre n'est pas encore né.
Et voilà. Ferme la page et on se retrouvera dans notre prochaine émission, toujours en compagnie de l'écrivain Olivier Bourdeau, pour poursuivre la rencontre et la conversation. Du vent dans les pages, à la technique et à la BO, Stéphane Jolly. Au voix off, François Nicolas. Merci à Olivier Bourdeau, à Susan Bourdeau, à leur famille, à Laure Paoli, au Festival Automne en librairie de Marseille, à la librairie Latourial, au café de la Caravelle qui a accueilli notre rencontre et à tous les Marseillais qui ont croisé notre route aujourd'hui.